Chapitre 18. Commençons par dire comment on se mariait. Les conditions du divorce viendront ensuite. Il y avait à Rome deux sortes de mariages, le mariage patricien et le mariage plébéien. Le mariage par confaréation, le mariage par coomption. Soyez tranquille, cher lecteur, tout cela va devenir clair comme le jour. Il se faisait d'abord, comme chez nous, un contrat de mariage. Le jurisconsulte qui tenait la place du notaire, après avoir lu l'acte et avant de le présenter au cachet, c'est-à-dire à la signature de son propriétaire, le jurisconsulte prononçait ces paroles sacramentelles. Les fiançailles, ainsi que les noces, ne se contractent que du libre consentement des parties, et une fille peut résister à la volonté paternelle dans le cas où le citoyen qu'on lui présente pour fiancé a été noté d'infamie ou a mené une conduite répréhensible. S'il n'y avait rien de tout cela, et si les deux parties consentaient, le mari, en garantie de l'engagement qu'il venait de contracter, offrait à sa femme un anneau de fer tout uni, sans aucune pierrerie. La femme le mettait à l'avant-dernier doigt de la main gauche, parce qu'une superstition romaine voulait qu'il y eût un air qui correspondît de ce doigt au cœur. N'est-ce point encore à ce doigt, mes belles électrices, que vous le mettez de nos jours, mais sans vous douter souvent de cette correspondance? Ensuite, on fixait le jour du mariage. D'habitude, comme on fiançait les jeunes filles à 13 ou 14 ans, même à 12, ce délai était d'une année. La fixation de ce jour était une grande affaire. On ne devait pas se marier dans le mois de mai, mois funeste à cause des lémurales. Ovide, Faste, 5, vers 497. On ne devait pas se marier pendant les jours qui précédaient les ides de juin, c'est-à-dire du 1er au 16 de ce mois, parce que ces 15 jours, comme les 31 jours précédents, étaient funestes au mariage. Voyez encore Ovide, Faste, livre 6, vers 219. On ne devait point se marier au calende de Quintilis, c'est-à-dire le 1er juillet, parce que le 1er juillet étant un jour férié, nul n'avait droit de faire violence ce jour-là. Or, un mari est toujours censé faire violence à sa femme, à moins que sa femme ne soit veuve. Voyez Macrobe, Saturne, livre 1, vers 15. On ne devait pas non plus se marier le lendemain des calendes, des ides et des nones, qui sont également des jours funestes, des jours religieux, pendant lesquels il n'était permis que de faire des choses absolument indispensables. Voir beaucoup d'auteurs sur ce point, attendu qu'à Rome, il n'était jamais indispensable de se marier. Voir donc Macrobe, Saturne, 15 et 16, Plutarque, 15 Rome, page 92, Tite Live, 6, 1, Olugélé, vers 17, fête religie. Dans les premiers temps de la République, la jeune fille allait, avec sa mère et quelques proches parentes, passer la nuit dans un temple afin d'écouter si quelque oracle ne se ferait pas entendre. Mais depuis, il suffisait qu'un prêtre vînt dire qu'il n'y avait point d'augure défavorable et tout allait pour le mieux. Le mariage religieux se célébrait au sacrarium de la maison. La jeune fille attendait avec une tunique blanche unie. Sa taille était serrée par une ceinture de laine de brebis. Ses cheveux étaient divisés en 6 tresses et relevés au sommet de la tête en forme de tour, surmontée d'une couronne de marjolaine en fleurs. Elle avait un voile transparent, couleur de flamme, et c'était de ce voile, nubéré, voilé, qu'était venu le nom de nuptié, noce. Le brodequin, comme le voile, était couleur de feu. Le voile était emprunté au costume de la flaminique d'Ialé, à qui le divorce était interdit, et la coiffure à celle des Vestales. Cette coiffure, par conséquent, était un symbole de la pureté de la jeune épouse. Chez nous, la branche d'oranger remplace la marjolaine, mais la branche d'oranger, comme l'anneau au doigt du cœur, n'en est pas moins une tradition antique. On ne se voilait que dans les mariages patriciens. Il fallait 10 témoins pour valider ce mariage. Les deux époux se plaçaient chacun sur une chaise jumelle, couverte de la peau d'une brebis ayant servi de victime et à laquelle on avait eu soin de conserver sa laine. Le flaminé d'Ialé mettait la main droite de la jeune fille dans la main droite du jeune homme, prononçait certaines paroles sacramentelles, disant que la femme devait participer au bien du mari ainsi qu'à toute chose sainte. Il offrait ensuite à Junon, qui préside au mariage, des libations faites de vin miellé et de lait, et dans ces libations figurait un gâteau de froment, nommé phare, qui était apporté et présenté par la mariée. C'était de ce gâteau que venait le mot de confaréation. Dans ces sacrifices conjugaux, on jetait le fiel de la victime derrière l'autel, en signe que toute erreur devait être bannie du mariage. Le second mariage était le mariage plébéien, ou par coemption, du verbe « émérer »,« acheter ». Dans ce second mariage, le mari achetait sa femme, et la femme devenait l'esclave du mari. Elle lui était vendue par son père ou son tuteur, en présence du magistrat et de 5 citoyens romains ayant atteint l'âge de la puberté. Le peseur de monnaie, qui figurait dans les ventes à l'encan, était aussi nécessairement présent au mariage. Au reste, la vente était symbolique. Le prix de cette vente était figuré par un as de cuivre, c'est-à-dire par la plus lourde mais la plus infime pièce de monnaie romaine. Un as pouvait valoir 6 centimes 3 quarts. L'as était divisé en sémise, moitié d'as, en triens, tiers d'as, en quadrans, quart d'as, en sextant, sixième d'as, en slips, douzième d'as. Une singularité de cette sorte de mariage, c'est que la femme apportait l'as avec lequel on l'achetait, si bien que ce n'était pas en réalité le mari qui achetait la femme, mais la femme qui achetait le mari. Dans ce cas, les questions étaient faites au tribunal du prêteur par le mari et la femme, au lieu d'être faites par le jury consulte. « Femme, disait le mari, veux-tu être ma mère de famille ?»« Je le veux, répondait la femme. » « Homme, disait-elle, veux-tu être mon père de famille ?» Puis, à son tour, « Je le veux, répondait l'homme. » On n'eût point fait cette question à une fille noble. La fille noble était matrone. La fille du peuple était mère de famille. Le mot « famille » rappelait l'esclavage. L'esclave faisait partie de la famille. Comme symbole de la dépendance à laquelle se soumettait la jeune fille, un des assistants lui séparait les cheveux avec un javelot dont il lui promenait 6 fois la pointe sur la tête. Puis les jeunes gens, s'emparant de la mariée, l'enlevaient entre leurs bras et la transportaient du tribunal du prêteur à la maison conjugale en criant « Attalasius, Attalasius !» Nous avons plus haut donné l'explication de ce cri. Mais avant d'arriver à la maison, on arrêtait la mariée devant un de ces petits hôtels au lieu lard, appelé l'arère, et qu'on rencontrait à chaque carrefour. La jeune femme tirait de sa poche un second as et le donnait au dieu. Entrée dans la maison, elle allait droit au pénate, tirait un troisième as de son soulier, de son brodequin ou de sa sandale, et le leur donnait. Ainsi, le mariage, chez les Romains, avait 2 caractères presque aussi respectables l'un que l'autre. Le mariage religieux, ou par confaréation, le mariage par achat, ou par coemption. Et cependant, le mariage n'était considéré chez les Romains que comme une association qui ne devait durer que tant que les associés seraient en bon accord. Du moment que cet accord était troublé, le mariage pouvait être dissous. Romulus avait fait une loi qui permettait au mari de répudier sa femme si elle avait empoisonné ses enfants, falsifié ses clés, commis un adultère ou bu du vin fermenté. De là venait à Rome la coutume d'embrasser les femmes sur la bouche. Ce droit, car c'était plus qu'une coutume, c'était un droit, ce droit s'étendait depuis le mari jusqu'au cousin. C'était pour s'assurer que les femmes n'avaient pas bu de vin. L'an 520 de Rome, Spurius Carvilius Ruga usa du bénéfice des lois de Romulus et de Numa et répudia sa femme parce qu'elle était stérile. C'est le seul exemple de répudiation qu'il y ait eu pendant 5 siècles. Il est vrai que, s'il était prouvé que le mari répudiait sa femme sans motif légitime, la moitié de ses biens passerait à la femme, l'autre était consacrée au temple de Cérès et le mari voué aux dieux infernaux. C'est dur, mais voyez Plutarque, vide Romulus. Cela était la répudiation. Puis il y avait le divorce. Spurius Carvilius Ruga avait répudié sa femme. Caton divorça avec la sienne. On appelait le divorce la diffaréation, c'est-à-dire le contraire de la confaréation. De même qu'il y avait eu 2 cérémonies pour lier, il en fallait 2 pour délier. La première avait lieu devant le préteur, en présence de 7 citoyens romains ayant atteint l'âge de puberté. Un affranchi apportait les tablettes contenant l'acte de mariage et les brisait publiquement. Puis, on rentrait au domicile conjugal, le mari redemandait à la femme les clés de la maison et lui disait « Femme, reprends tes biens, adieu, sors d'ici !» La femme, alors, si le mariage avait eu lieu par confarréation, reprenait sa dot et s'en allait, quand c'était les torts du mari qui avaient amené la séparation. Mais quand c'était les torts de la femme, le mari avait le droit de retenir une partie de la dot. Un sixième, par exemple, pour chaque enfant, jusqu'à concurrence de la moitié de cette dot, les enfants restant toujours la propriété de leur père. Cependant, il y avait un cas où la femme perdait toute sa dot. C'était le cas où elle était convaincue d'adultère. Dans ce cas, avant de la congédier, le mari la dépouillait de la stolée et la revêtait de la toge des courtisanes. Quant au mariage par corruption, une vente l'avait fait, une vente le défaisait. Seulement, comme l'achat était simulé, le rachat lui-même était une simulation. Il y avait donc 3 manières de se séparer à Rome. La répudiation, qui était flétrissante pour la femme. Le divorce qui, à moins de crimes commis par l'un ou par l'autre, était une séparation à l'amiable et n'avait rien de déshonorant. Enfin, la restitution de la femme à ses parents, qui n'était rien autre chose que le renvoi à ses premiers maîtres d'une esclave dont on ne veut plus. Vers les derniers temps de la République, la restitution, le divorce et la répudiation étaient devenues choses fort communes. Vous avez vu César répudiant sa femme dans la seule crainte qu'elle ne fût soupçonnée. Souvent même, le mari ne donnait point de raison. « Pourquoi as-tu répudié ta femme ?» demandait un citoyen romain à un de ses amis. « J'avais mes motifs, » répondit celui-ci. « Lesquels ? N'était-elle pas probe ? N'était-elle pas honnête ? N'était-elle pas jeune ? N'était-elle pas belle ? Ne te donnait-elle pas des enfants bien constitués ?» Pour toute réponse, le divorcé allongea la jambe et montra son soulier au questionneur. « Ce soulier n'est-il pas beau ? » lui demanda-t-il. « N'est-il pas neuf ?»« Si fait, » répondit l'ami. « Eh bien, » continua le divorcé en se déchaussant, « qu'on le rende au cordonnier car il me blesse et il n'y a que moi qui sache précisément tout. » L'histoire ne dit pas si les souliers que lui renvoya le cordonnier à la place de ceux qu'il lui avait rendus allèrent mieux aux pieds de cet homme si difficile à chausser. Revenons à Caton, dont la dissertation matrimoniale nous a écartés, et reprenons-le où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans.